Cette semaine, dans le balado, on fuit la mort, on garde un secret et on participe à un drôle de tournage. Bienvenue à mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Salut Pat. Donc, c'est officiellement l'été.
Oui.
Au niveau du cinéma, c'est l'été. Je sais que des saisons, il reste plusieurs semaines au printemps, mais...
C'est le coup d'envoi
de mai, exact.
Des blockbusters américains.
C'est-tu le Comic Book Day?
Free machin? Comic Book Day, effectivement, qui a lieu
le 3 mai.
C'est le premier samedi du mois.
OK.
Mai.
Ouais. Fait que ça varie. Mais...
Et en plus, ça tombe 4 mai, qui est la journée mondiale de Star Wars.
Ouais,
mai de
Fourth
Day. Fait que double célébration pour les amateurs de la culture populaire. Mais avant d'aborder et de parler des nouveautés de la semaine, petit mot de notre commanditaire.
Oui, on salue le Club musical de Québec, qui est votre diffuseur de concerts de calibre international dans la capitale de Québec. Ils ouvrent une fenêtre sur le monde grâce à 6 nouvelles destinations musicales en 2024-2025, donc la prochaine saison. Parmi ces artistes d'exception, le violoniste grec Leonidas Kavakos interprète Bach en solo. Le Israeli Chamber Project nous offre Petrushka et d'autres œuvres au caractère magique. Et le pianiste français Pierre-Laurent Aymard tisse des ponts entre les compositeurs passés et présents. On souligne également de grands retours avec les Thalys Scholars retraçant 1000 ans de chant. Le baryton Thomas Sampson célébrant la liberté aussi bien par la musique de Mahler que par les mots d'Abraham Lincoln. Et ainsi que le clarinettiste Martin Frost, l'altiste Antoine Tamesti et le pianiste Shai Vosner se réunissant autour de la danse et du folklore. Prenez rendez-vous dès maintenant avec les plus grands artistes en vous abonnant à ces événements incontournables. Plus de détails au clubmusicaldequebec.com.
Alors, petit tour d'actualité. Est-ce que tu as quelque chose qui a attiré ton attention?
Ah non, j'avais mes œillères cette semaine, j'ai rien vu aller.
Parfait. Alors, je me lance et tu réagiras.
Et tu m'as parlé de potins,
oui.
D'acquisitions.
Oui, potins économiques.
Les échos de couloir.
Ben oui, écoute, en fait, c'est sorti officiellement que Sony Pictures, avec un autre fonds mutuel d'argent,
la FDQ,
aurait fait une offre d'achat pour Paramount Global. Donc,
on avait déjà parlé il y a un bout que Paramount était potentiellement à vendre.
C'est ça. Donc, la famille Redstone qui gère encore la patente. C'est maintenant la fille de Sumner Redstone, je pense, qui était longtemps propriétaire de Paramount Pictures et maintenant Paramount Global qui englobe toute la grosse compagnie à l'international. Donc, il y a des rumeurs qu'il y aurait un merger en anglais, une fusion avec Skydance, qui est aussi une boîte qui produit. On voit souvent le logo devant
les
films.
McQuarrie,
Mission Impossible, je pense, c'est tout ça. Donc, fait que je pense qu'ils ont déjà des parts dans Paramount. Mais là, Sony, très agressif, aurait offert 26 milliards pour Paramount Global et cash.
Donc, je pensais que c'était comme en blague. Mais
non, vraiment pas. Donc, la compagnie ne serait pas une compagnie publique, alors deviendrait une compagnie privée. Okay. Alors, on achète l'entièreté des actions et ça devient une compagnie privée. Quand même, c'est assez impressionnant.
Mais je sais pas d'où Sony sort tout cet argent-là. Mais pas juste de Sony Pictures, c'est sûr que Spider-Man, mais ils ont... En tout cas, je sais pas l'image, mais beaucoup d'échecs, surtout dans les derniers temps. Là. Mais ça doit être, il y a le Sony électronique.
Ben oui, c'est sûr, effectivement. Effectivement, c'est pas la Sony Pictures, le studio de cinéma, mais vient l'entité Sony qui doit avoir de très bons fonds, il faut croire, se permettre ça.
Des poches bien creuses.
Quand même. Donc, ça va être à suivre. Je pense que l'option privilégiée par Paramount, ce serait la fusion avec Skydance. C'est un petit peu les échos là, que j'ai lus, mais peut-être que les actionnaires, eux, vont trouver l'autre offre plus alléchante.
Je ne sais pas, ça au point de vue cinéma, on dirait qu'on n'est même pas encore habitué à Fox qui a été avalé par Disney, tu sais.
Fait que là, on passerait de 6, qui était 6 à l'origine, à 5 gros studios, et là, à 4 avec cette mainmise-là de Paramount.
Mais
personne.
Disney les travaille encore, là, on les voit quand ils vont dans les Comic-Con puis toutes les affaires de présentation. C'est quand même des boîtes. C'est sûr que les dirigeants ont tout changé, puis il y a des têtes qui ont tombé.
Ouais.
C'est sûr qu'on fera un peu pareil. Là,
J'imagine que oui, Paramount va conserver son identité, mais c'est sûr que c'est plus au niveau de la structure de l'entreprise que c'est sûr qu'il y a beaucoup de postes qui doivent être coupés parce que c'est un doublon sinon.
Oui, puis tu sais, du côté de Sony, il me semble, ils n'ont pas une plateforme de diffusion. Là. Je sais qu'il y a un genre d'application là, quand tu achètes des télés Sony puis des affaires comme ça, mais c'est pas gratuit. Mais...
Non, là, c'est un très bon point. Puis d'ailleurs, je pense qu'ils avaient signé une entente avec Netflix il n'y a pas longtemps, je pense, pour leur permettre de diffuser leurs films. Donc là, justement, ils auraient la plateforme avec Paramount+. Mm-hmm. Un gros plus pour eux, probablement aussi, dans cette transaction-là.
Ben, puis c'est ça. Ça va grossir aussi la guerre des plateformes à ce moment-là. Alors, y a-t-il un gros back catalogue, Sony? C'est quoi les...
Ben, écoute, Ghostbusters. ben, pendant longtemps, ils ont été distributeurs de James Bond, mais ils n'appartenaient pas à la franchise. Là, c'est Amazon qui a eu la mainmise. À part de ça, Sony Columbia, j'essaie de penser.
Les
Bad Boys,
Columbia,
quand même.
Ouais, trucs,
Bad Boys. Mais il faudrait que je regarde. Mais effectivement, ils ont moins de franchises que Disney ou Universal ou Warner.
Les récents, le film d'horreur avec James Bond.
Il y a Spider-Man.
Oui, oh, c'est vrai.
Quand
ouais,
même.
Ça, c'est pas mal là, les alors plus payants.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça. De James Bond, y a-tu une des affaires que c'est avec Sony ou c'est tout Warner puis Universal? Et...
James Bond?
Ben, non, James Wan.
Ah, James Wan.
Dans les conjugations, c'est Warner.
Ouais, c'est Warner, je pense.
Ouais. Okay.
New Line.
Mais ouais, c'est sûr, Columbia, c'est vrai. Là, okay. Ouais. Il y a quelque chose qui nous échappe. Mais c'est vrai que Bad Boys, justement. Prochain volet cet été.
Alors, ben, à suivre pour ceux qui s'intéressent à l'économie du cinéma.
Oui, l'économie cinématographique, si on veut.
Alors, sinon, annonce d'un suite au succès de Barbie l'été dernier. On ne sera pas surpris que plusieurs films thématiques jouets s'annoncent.
Ben là,
vont
Margot
suivre.
Robbie les produit toutes.
Ouais, c'est ça.
D'autres encore?
Là, c'est pas par Margot Robbie, mais c'est un qui circule quand même depuis, écoute, je pense que ça fait 7-8 ans facile. Masters of the Universe, les maîtres de l'univers.
Ouais. Mais ça, il y avait une série télé.
Il y a eu une série animée.
Pour vendre des jouets quand on était
jeune. Ah, quand on était jeune, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ils ont refait une série moins récemment, je pense.
Ouais. Ben, il y a eu un film en 87.
Ouais. C'est-tu un So Bad It's Good? Ou c'est
non,
juste...
It's So Bad.
C'est juste bad.
Oui, oui. Okay. Avec Dolph Lundgren, donc Ivan Drago, qui
c'est
jouait...
lui qui fait le protagoniste.
Fait Iman, oui, effectivement. Okay. Qui avait le casting, mais qui n'avait pas l'aisance du jeu.
Ouais, mais tu sais, Arnold et Stallone, ils en ont fait.
Ah, il était meilleur que Lundgren. Ah, Lundgren, c'était quand même pas un grand comédien. Et surtout, c'était de faute de budget. L'intrigue se déroule sur Terre. Fait que on n'est même pas dans le monde fantastique d'Eternia. Okay. Fait que c'est comme lui qui est parachuté sur Terre. Puis, fait que, non, c'était très, très mauvais. C'était vraiment du film B canon à cette époque-là, là, de ce studio-là. Et effectivement, il y a quelques... Ben, je pense que c'est l'an dernier, il y a 2 ans, Kevin Smith, de Clerks et compagnie. Donc, lui a écrit une nouvelle version en série animée qui est diffusée sur Netflix, qui est pas mal, honnêtement, qui se passe vraiment plusieurs années après la série originale. Puis... Mais Netflix avait quand même les droits pour une version live action, donc en chair et en os. Ils ont été incapables de partir ce projet-là. Donc, finalement, c'est retombé dans les mains. Écoute, j'ai même pas noté le studio, je pense. C'est Amazon. Amazon qui ont récupéré les droits et eux vont vraiment faire une sortie cinéma en salle.
Ils ont fait récemment.
Oui, ils sont vraiment bons joueurs. Donc pour.
En fait, avant qu'il y ait Bezos et tout, Amazon Studios a toujours existé. J'ai souvent fait des films. Là. Il y a eu des Woody Allen avec Amazon Studios et tout, mais c'était avant qu'il y ait. Amazon Prime, là, puis tout. Là, c'est juste que maintenant, depuis qu'ils ont acquis ça, qu'ils ont pris MGM, là, ils sont rendus dans des films à gros budget.
Oui, oui, oui.
Mais ils faisaient des films d'auteur avant Amazon Studios. Là.
Mm-hmm.
Ça fait un bout.
Alors, donc, pour l'été 2026 annoncé.
Puis là, on a déjà des rumeurs de casting?
Non, il n'y a rien qui a été encore coulé là-dessus. Mais c'est Travis Knight qui va réaliser le film. Travis Knight, connu peut-être pour avoir fait le meilleur des Transformers, Bumblebee.
Oui, c'est vrai.
Mais
puis,
aussi
oui,
les films d'animation.
Et l'épée magique.
Ouais, c'est
tout,
ça.
Là, c'était hot, ça.
Ouais, donc je pense que ça peut être un film intéressant.
Y a-tu fait quoi depuis Bumblebee?
Oui, il avait fait... qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Mais ça avait un peu moins bien fonctionné, mais ça m'échappe. Tu vas aller voir ça.
Je vais aller voir. Tu peux aller sur autre chose.
Donc, à suivre, en espérant que cette fois-ci, ça soit la bonne. Parce que je pense que cet univers-là a vraiment un potentiel intéressant là, exploité au cinéma. Sinon, dans les franchises existantes, on sait qu'il y a un troisième volet de Tron en préparation, Tron Ares, qui est une suite au film de 82, l'original, 2010 pour la suite Tron Legacy. Jared Leto est le comédien principal. Et là, on a annoncé, sans grande surprise, que Jeff Bridges sera de retour dans Tron Ares. On sait qu'il est la vedette principale du premier film, qui était... Il y avait une apparition, mais quand même un petit rôle secondaire aussi dans Tron Legacy. Évidemment, on va le rajeunir digitalement, comme on avait fait avec Tron Legacy.
Ouais.
Qui était quand même pas si mal là, en 2010 pour les moyens du bar. Je trouve qu'il avait quand même un job intéressant.
Ouais, ouais, ouais. Ça fait trop longtemps que j'ai vu, je me suis dit.
Ouais. Fait que non, il avait vraiment l'allure de 82, parce que dans le fond, tant qu'il prit dans le jeu, il y avait ce look-là. Fait que j'ai bien hâte de voir Tron Ares. Encore là, moi, Tron Legacy, c'est un film que j'avais vraiment apprécié. J'avais vraiment...
Ça, c'est 2020...
2010.
Ah non, mais excuse, le prochain...
Le prochain, c'est octobre 2025.
OK.
Le tournage est vraiment en ce moment.
J'ai... Sur le IMDb, ouais, non, c'est ça, Travis Knight, Bumblebee. Dans le fond, il a réalisé Kubo en 2016, Bumblebee en 2018, puis rien depuis.
Ah ouais, quand même, OK. Je pense
sur IMDb, on parle que les maîtres de l'univers sont en 2026.
Ouais.
Même si ça fait longtemps que ça s'est annoncé, c'est ça. Puis il y a d'autres projets, un Wildwood, des affaires comme ça, de Six Billion Dollar Man. Mais tu sais, IMDb, des fois, dès qu'il y a des rumeurs, il t'associe à quelque chose. Mais justement, est-ce que ça va voir le jour?
Alors voilà, pour Travis Knight. Donc, bien hâte de voir. Et pour Tron aussi. Alors, sinon, pour ceux qui avaient hâte de voir soit Craven the Hunter et peut-être plus de Karate Kid. on a eu une petite chaise musicale encore pour ces sorties-là.
On sait-tu pourquoi?
Je pense pas. Je pense que The Karate Kid, ils étaient quand même assez audacieux de proposer une date de sortie en décembre de cette année, alors que le tournage débute en ce moment.
Oui, okay, ouais.
Fait que je pense que...
Fois, j'ai... en fait, ce qui est arrivé, c'est que Craven, là, pour la énième fois, a repoussé, devait sortir le 30 août. Finalement, elle va sortir le 13 décembre.
Comme... Et il prend la place de Karate
Kid. C'est ça, c'est le film de Noël qu'on attendait tous.
Vraiment.
Puis Karate Kid, y a-tu reporté...
Au mois de mai 2025.
OK, fait que de 6 mois à peu près. Mais... des fois, là, je pense que j'en ai déjà parlé, j'ai l'impression qu'ils le savent puis ils font exprès. C'est comme, pour qu'on parle du film, parce que si tu dis toujours tout de suite comme, « Hey, en fait, ce film-là va sortir dans 2 ans », on dirait que tu l'oublies, mais tu joues à le déplacer. Je pense pas que c'est ce qu'ils font avec Craven. Je pense que c'est vraiment un problème de sortie puis de qualité puis de je sais pas quoi. Là.
Peut-être qu'à leur calendrier déplaçant Karate Kid, ils avaient rien d'autre. Ouais. Fait qu'ils ont dit, « Bon, ben garde, on va prendre une chance puis on va le sortir.
Ouais, » pour avoir un film à Noël.
Ouais, c'est ça. Qui est la plus grosse période que le mois de septembre, on s'entend. Qu'il sortait fin août, le dernier week-end de août.
Mais ça ne sera pas une grosse sortie pour Noël. Là. Il va avoir, on en reparlera, mais il va y avoir Mufasa au même moment. Là. Pas le même public, je l'entends, mais 2 films de félin.
Ben oui. Alors, pour Karate Kid, moi, j'ai vraiment hâte. Puis je pense qu'il y a peut-être une part aussi du tournage et tout ça. Mais on sait qu'on va la dernière saison de Cobra Kai, donc cette suite-là de Karate Kid, va être diffusée cette année aussi.
Okay.
Je pense qu'elle va être comme en 2 parties, quelque chose comme ça. Fait que peut-être qu'ils veulent laisser le temps vraiment d'installer cette finale-là. J'ai l'impression que le film doit se dérouler après la série.
Okay.
Et on a confirmé par le même coup qu'il va y avoir le Karate Kid Verse. Là. Fait que parce que Jackie Chan va être dans ce nouveau film-là et il reprend vraiment son rôle. De M. Han, qui était le M. Miyagi à l'époque.
C'est ça, mais
là.
Il n'était pas M. Miyagi non plus, fait ça. Que ça marche. Okay.
Ouais, fait qu'on ne sait juste pas si Jaden Smith va être dans le film. Pour l'instant, il n'est pas au générique, mais...
Le mieux, ça serait un caméo, là, parce qu'on s'entend qu'on a compris qu'on ne peut plus le prendre comme lead acteur tant que ça, là, ça se passe pas.
Ouais, alors est-ce que les deux, donc M. Han et Daniel LaRusso vont faire équipe pour entraîner... un nouveau jeune à suivre quand même.
Honnêtement, je pense que c'est comme... C'est le genre de film que je vais rien comprendre. Là, parce que j'ai pas écouté... j'ai vu le premier Karate Kid, c'est tout. J'ai jamais vu les autres. J'ai pas écouté la série. J'ai pas vu celui avec Jackie Chan puis Jaden. Puis j'ai comme... J'étais rien à...
Ça t'intéresse.
Ça me passe pied par-dessus la tête, cette affaire-là. Mais on dirait que c'est vraiment, comme plusieurs affaires, c'est l'œuvre d'une autre génération, mais qui ont comme réadapté pour essayer de gagner. Mais j'étais comme entre les deux, tu sais. Trop vieux pour l'original. Moi, j'étais plus de l'âge des suites, mais qui n'étaient pas toutes super bonnes.
Ouais.
Puis trop vieux pour...
Le remake en...
Oui, c'est ça. Trop jeune pour l'original, trop vieux pour les remakes. Fait que pff, j'ai glissé entre les cracks. Mais j'ai des amis qui ont embarqué dans Cobra Kai et tout. Mais...
Honnêtement, l'idée est vraiment bien amenée. C'est bien développé.
Mais ça vaut-tu 5, 6 saisons? Tant que
ça... Non, c'est ça le problème. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu faire 3 saisons, ça aurait été parfait. Mais là, ça devient le problème un peu de ces séries-là qui s'étirent. Il y a tellement trop de revirements improbables et arrangés avec le gars des vues. Là, fait que, écoute, comme un guilty pleasure rendu là, honnêtement, je dois avouer les deux dernières saisons. Mais les trois premières, c'était quand même très sympathique. Et surtout l'idée d'amener que on inverse les rôles où c'est Daniel LaRusso qui est comme un peu le méchant au début de Cobra Kai. Puis c'était l'autre, la victime, Johnny. Fait que ça, c'était quand même une twist qui est le fun un peu. Où on voyait l'histoire du point de vue de Johnny. Là. Fait que bref, fait que voilà pour The Karate Kid. Et dernière nouvelle pour les amateurs aussi d'Astérix. Ben, on perd pas de temps. On a confirmé qu'il y aurait un nouveau film en prise de vue réelle. La grosse nouvelle, c'est que ça change de studio. Les 6 films, je pense, ou 5. 3, 4, 5. Ouais, je pense qu'il y en a 5.
Des animations au travers. En prise de vue réelle.
Prise de vue réelle, je pense qu'il y en a eu 5. Les 3, après ça le 4, puis le dernier qui était l'Empire du Milieu. Va changer de studio, fait que c'est Studio Pathé qui était derrière chacune de ces adaptations-là. Maintenant, c'est Studio Canal Plus qui ont eu les droits. Évidemment, on n'a pas encore confirmé si Guillaume Canet serait de retour.
Je ne sais pas, finalement, il était-tu considéré comme un succès, le film?
Je pense que c'était un succès correct. Je pense qu'il avait terminé quand même au premier box-office français l'année dernière, je pense.
Oui, c'est ça.
Ou pas loin de. Fait que, mais c'est sûr que c'est tellement des films à gros budget, donc je ne sais pas par rapport à
leurs
attentes.
Oui, c'était pas genre le film le plus coûteux du cinéma français. Genre 100 millions d'euros.
Je pense que chaque Astérix, c'est un peu ça aussi. Là. Je pense que c'est comme une balise. Mais honnêtement, je lui donnerais sa chance d'en faire un autre parce que je l'avais quand même bien apprécié. Puis je pense que toi aussi, tu as trouvé ça.
Correct. Fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Non, je trouvais qu'il y avait. Écoute, là, c'est plus à l'affiche. Je trouvais qu'il y avait trop d'intrigues amoureuses. Puis ça a comme pas rapport avec le film. Tout le monde était amoureux de quelqu'un.
Non,
je trouvais ça très chaotique comme film. Okay. Je trouvais. Moi, j'aimais bien. Le louche en Obélix, même s'il y en a plein qui étaient comme Depardieu était mieux, Depardieu était mieux, mais Depardieu est, dans la vie, il n'est pas mieux que grand monde, hein, ce qu'on a découvert. Mais le casting me plaisait, mais pas l'histoire, pas le scénario.
Bon, moi, j'avais adoré le casting, puis j'ai adoré Cassel en César aussi.
Cassel puis Cotillard, c'était mais il y avait comme le fameux « on met plein de comédiens, plein de personnages, et on veut tout le monde, mais ils sont pas justifiés dans l'histoire. » Bref.
Non, mais c'est ça. C'est comme une bande dessinée, là.
Mais pense, pour avoir eu des échos de d'autres collègues qui sont allés avec leurs enfants, des trucs comme ça, ils étaient comme appréciés le film. Mm.
Ben, nous autres, en famille, on avait bien apprécié, justement. Pour les bandes-annonces, semaine très, très tranquille. La seule que j'ai relevée, c'est... Justement, tu en parlais tout à l'heure du gros film de Disney du temps des fêtes. Donc, on a enfin dévoilé les images. Mufasa.
C'est quoi? C'est pas Lion King. Mufasa 2. Lion King, enfin de même. Fait que le prequel au Roi Lion.
Ouais.
La jeunesse de Mufasa. Mais que là, on se dit, ben là, ça va être la même affaire que le Roi Lion. Mais non, parce que la différence, c'est que le Roi Lion est déjà un prince né du roi Mufasa. Mais Mufasa, lui, c'est un sans-logis. Non, il n'est pas dans la royauté des animaux. Fait que bon, on va comprendre tranquillement. Mais là, c'est un premier teaser, c'est assez cryptique sur...
Oui, c'est ça. Bon, on comprend quand même dans le film, va oser aborder cette rivalité-là avec son frère Scar aussi. Ouais. Là, je pense que ça va faire partie de l'intrigue du film. Honnêtement, je pense qu'on va pas tant voir ça pour l'histoire, mais vraiment pour les images de synthèse.
C'est ça, c'est la même sauce que le dernier quand ils ont refait. Fait que comme ils disent prise de vue réelle, mais non, là.
C'est ça
du CGI, mais c'est pas du dessin animé.
Ouais. Mais ça a l'air vraiment spectaculaire. Cette fois-ci, c'est Barry Jenkins qui réalise, qui avait fait quand même Moonlight, qui provient du cinéma indépendant américain. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, quand la bande-annonce est sortie, tout ça, ça a comme causé une petite controverse, là. Beaucoup de gens. Ils ont comme répondu « Ah, tu vends ton âme à Disney, comment tu peux passer pour faire des films de même? » En tout cas, fait que bref. Mais il a pris le temps de bien répondre aux gens. Il était très, très diplomate. Puis un enlève pas l'autre. Plus, tu peux faire d'un film comme Moonlight, puis si tu as goût de faire un film de Disney, vas-y.
Ben, tout à fait. Puis je veux dire, tu rentres pas sur un projet comme ça, comme un tâcheron. Là.
Non plus.
C'est genre 6 ans de travail à côté. Là. Lui, je sais pas, il est rentré quand dans le processus, mais c'est long puis pénible. Là. Je veux dire, tu le fais parce que ça te tente.
Ben, c'est ça.
Réaliser un film de série B ou surtout les comédiens, là, des fois, comédiens, comédiennes, de genre, OK, je suis là, donne-moi 1 million, je te donne 3 jours de tournage. Là, on a entendu des histoires comme ça d'anciennes vedettes qui sont rendues là, puis t'es comme, OK, ça, tu le fais juste pour l'argent puis pour faire autre chose, mais tu peux pas réaliser un film de cette ampleur-là avec ce budget-là juste comme, puis aller à reculons tous les jours. Là. C'est impossible.
Non, non, c'est trop de stress. D'ailleurs, tous ceux qui ont travaillé aussi sur des Marvel, ils disent quand même, c'est sûr qu'il y a un cadre à respecter dans ces films de grands studios-là, mais une fois que tu acceptes ce cadre-là, tout le monde, on dit, on a une grande liberté de proposer, de faire ce qu'on veut, puis c'est rare qu'on se fait dire non. Là, en même temps, c'est les producteurs vont les chercher parce qu'ils ont une vision,
ouais,
ils ont un talent,
une sensibilité.
Ben oui, c'est ça. Fait que, bref, ça me fait toujours rire, ces fameux débats-là de réseaux sociaux qui est un puits sans fond.
Jon Favreau, il est rentré de même aussi. Là. Avant, ouais, il réalisait Chef puis des films plus d'auteurs. C'est ça, exact. Puis à un moment donné, il est rentré dans le livre de la jungle puis dans les autres affaires. Puis on l'a pas écœuré avec ça.
Ouais. Avec The Iron Man, son premier grand film.
Il a réalisé
les deux premiers même.
Jon Favreau, ouais. Ah, c'est ça. Je me souviens.
Puis avant ça, c'était.
Mais lui, il jouait dedans puis il le réalisait en plus.
Ouais. Ça a donné le petit rôle de Buddy Hogan. Mufasa, qui va être assurément le grand film familial du temps des fêtes,
ouais,
de sortie le 20 décembre.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Allons-y avec les sorties de la semaine.
Restons dans Hollywood.
Vas-y avec The Fall Guy de David Leitch.
Oui, le cascadeur au Québec. David Leitch qui nous a donné des gros films d'action. Lui qui est un des propriétaire de la compagnie 87 North Production. Fait que ceux qui sont derrière, ben lui, il a réalisé entre autres Bullet Train il y a 2 ans, ouais. Atomic Blonde il y a quelques années, mais il était dans la gang qui ont parti John Wick.
Ouais, c'était le premier réalisateur de John Wick, je pense.
Ben, il était co-réalisateur au début, lui, puis j'oublie son nom, Ivan quelque chose, ça se peut-tu? Puis lui, comme allait faire, ben, il est resté producteur, mais là, ils ont dit on peut pas co-réaliser ça tout le temps. Fait qu'ils ont laissé la franchise un peu plus à l'autre.
Qui était lui-même cascadeur, d'ailleurs.
C'est ça, en fait. C'était des cascadeurs devenus coordonnateurs de cascade et là, devenus réal.
Et lui, il était la doublure de Keanu Reeves dans The Matrix.
Ah,
c'est ça. Le lien avec Keanu.
OK, voilà. Ouais. Fait que The Fall Guy, c'est un peu ça. C'est un film qui est hommage aux cascadeurs. Et d'ailleurs, il y a un mot au début du film entre David et Ryan là, qui, ben, pour inviter les gens à ne pas texter dans la salle, mais aussi un peu expliquer là, en 2 minutes rapidement les grandes lignes du film. On va suivre un cascadeur joué par Ryan Gosling qui travaille sur le premier film réalisé par une fille qui trouve bien cute puis qui a fréquenté pendant un temps, Emily Blunt, qui était une caméraman qui finalement a sa première chance de réaliser un vraiment très gros film à gros déploiement avec la star Tom Ryder, joué par Aaron Taylor Johnson. Et donc, Gosling, dont son personnage Cold Silver, c'est un des pires noms, mais les meilleurs noms à la fois, qui est d'habitude justement la doublure de Tom Ryder. Sauf que là, Tom Ryder est porté disparu. Puis on dit, la productrice va dire au personnage de Gosling, comme, ah ben toi, t'es juste un cascadeur, peux-tu juste aller enquêter tranquillement, va à son appart, voir parce que là, il a disparu. Puis ben, il va se mettre le doigt dans l'engrenage comme ça, puis il se retrouve dans une espèce de petite machination plus grande que lui, essayer de trouver la vérité et essayer de regagner l'amour au travers de ça. Fait que tout ça dans une comédie d'action romantique, voilà. Qui est inspiré d'une série télé, ça se peut-tu, ça?
Tout à fait. The Fall Guy, une série des années 80 que j'ai jamais écoutée, honnêtement, mais j'étais dans ces âges-là, là, 81 à 86, je pense, sur la chaîne CBS.
Mais c'était-tu comme un cascadeur qui résout des enquêtes ou c'était juste
ouais, en fait, l'intrigue de la série, c'était un cascadeur de jour puis une espèce de chasseur de primes qui utilisait justement ses astuces, ses trucs de cascadeur pour attraper les victimes, qui était interprété par Lee Majors. C'était quand même un des gros noms à l'époque de la série télé qui était L'Homme Bionique.
Ah, okay.
Donc, c'était la série qui a suivi L'Homme Bionique. Fait que c'était son comme deuxième gros succès. Oui, mais tu l'as dit, l'accent est vraiment. Ben, on dirait qu'on met un peu la genèse peut-être pour arriver à ce concept-là de série télé parce que le personnage n'est pas tout à fait là dans le film. Parce qu'on voit qu'à la fin, là, il va former comme peut-être sa business ou quelque chose de cascadeur, puis peut-être que, tu sais, vu qu'il a résolu cette énigme-là,
ouais,
il va peut-être
là,
avoir quelque chose.
Ouais. Fait parce que c'est librement inspiré de ça.
Oui,
c'est pas ouais, c'est pas le même personnage ou quoi que ce soit, je pense.
C'est le même nom.
C'est le même nom, mais C'est comme on repart à zéro.
Oui, c'est ça. Ça peut comme servir un peu dans tes épisodes à la série télé. Mais on est vraiment beaucoup dans l'accès à la comédie romantique aussi. Parce qu'il y a un côté un peu kitsch, mais très assumé entre Gosling et Emily Blunt. Mais ça passe tellement bien entre les deux parce qu'ils ont vraiment une très bonne chimie. Et ça pourrait faire penser un peu le film il y a 2 ans, je pense déjà, avec Sandra Bullock et
Channing Tatum.
C'était comment encore
La cité perdue.
Fait que c'est vraiment des comédies sentimentales avec beaucoup d'action au cœur du film, beaucoup d'humour aussi.
Moi, j'avais pas tant aimé La Cité. Je trouvais ça très... En tout cas, on passera pas trop de temps sur un film, mais je trouvais qu'il mettait beaucoup d'efforts à créer un vrai mystère puis une vraie aventure, alors que c'était un peu fade. Mais là, moi, j'ai vraiment embarqué. C'est ça. Je les trouve plus charismatiques. On peut quitter le jeu des comparaisons, mais disons, ici, je les trouve très charismatiques les deux ensemble. Puis c'est deux comédiens qui ont eu une immense année l'an passé, là, qu'on a parlé d'eux vraiment beaucoup plusieurs rôles et tout.
T'sais. Ben surtout, on reprend le Buzz Barbenheimer,
ils n'ont pas fait un peu ça avec les Oscars, là. Ils présentaient un film ensemble, puis ils se renvoyaient la balle comme ça.
Ça gossait, effectivement.
Qui était sûrement aussi un petit peu de mise en scène pour parler du fait qu'il y avait un film qui s'en venait, là. On est vraiment dans une formule classique. C'est comme un blockbuster qui rend hommage au blockbuster parce qu'on est... Nous, on regarde un film pendant un tournage de film. Fait qu'il y a un côté méta. Le film ne l'accuse pas trop là, non plus. Là. Il n'y a pas de clin d'œil. On ne brise pas le quatrième mur ou quoi que ce soit. Mais tu vois que c'est un film qui a été fait par un ancien cascadeur qui veut rendre hommage aux cascadeurs. T'sais, au générique, à la fin, là, on leur montre pas des bloopers, mais plutôt les cascades, le behind the scenes. Tous ces cascadeurs-là.
C'est toujours impressionnant à voir. Puis on a toujours un doute aujourd'hui à la technologie, à quel point c'est fait digitalement de manière numérique ou c'est des vraies cascades. Fait que c'est toujours impressionnant de voir. La majorité du film semble être vraiment des cascades à l'ancienne. Là.
Puis c'est un peu le film qu'eux, ils tournent. J'ai oublié Metal Storm.
Metal Storm.
Qui est comme un film un peu ringard de cowboy contre des extraterrestres, qui se moque sûrement un peu du film Cowboy versus Alien, qui avait été quand même un fiasco aussi. Qui venait d'une petite BD vraiment niaiseuse aussi.
Et d'ailleurs, on parlait de Jon Favreau qui était le réalisateur.
Oui, c'est vrai. Ben oui, Colin. qui devait être un peu son premier contrat de peux-tu réaliser un gros film avec des gros noms, puis c'était comme débilos. C'est ça. Fait qu'il y a un peu ce côté-là. Tu sais, le film a l'air complètement naze, mais eux, ils le voient comme, tu sais, Tom Rider, le gros acteur d'action. Ça va être vraiment un hit, ce film-là. Puis aussi, je le sens, là, qu'il y a de quoi. Puis, tu sais, le Tom Rider, Taylor Johnson, comment il joue, c'est un pastiche un peu de. Un acteur qui est rendu avec un gros ego puis qui a son talent, mais qui fait pas ses cascades, puis tu sais, il se prend pas pour un 7-Up flat, puis c'est pas le plus brillant de la gang non plus. Mais il est utilisé avec parcimonie. Comme il est porté disparu une bonne partie du film, ben on le voit beaucoup en images d'archives ou des choses comme ça. Fait que je trouve que c'est vraiment bien intégré, puis il est pas trop... tu sais, tellement stupide qu'il pourrait pas exister dans la vraie vie. Là, tu sais. Fait que je trouve que le film, comment il se présente cet été, là, dans le panorama cinématographique, il prend un peu la place de Top Gun Maverick d'une certaine manière, c'est-à-dire que Top Gun se prenait plus au sérieux, mais c'est vraiment plaisant. Là. C'est vraiment un film, j'espère que les gens vont être au rendez-vous, qui va être à l'affiche, comme réussir à se maintenir plusieurs semaines, que beau temps, mauvais temps, il pleut, vous ennuie un soir. T'sais, allez voir ce film-là, je trouve qu'il est vraiment agréable à regarder. Oui, il y a du monde qui mourrait dans certaines des cascades qui se présentent là-dedans, là, tu sais. Mais tout le monde s'en sort bien là-dedans. Surtout, comme on dit, c'est un cascadeur. Fait que lui, même si des gens l'attaquent avec des fusils, lui, il va pas se mettre à leur tirer dans les genoux puis dans la tête. Là. Il donne des coups de poing puis il se sauve, là, tu sais.
Fidèle à lui-même, là, il met en scène des très bonnes séquences de combat.
Dans des lieux surprenants et tout. Il y en a une qui a un petit côté John Wick, justement. Dans un club, sur des blacklights puis des affaires comme ça. C'est pas que ça, le film, là, justement. Mais puis, tu sais, au début, quand il parle des cascadeurs, il y a beaucoup d'images de Atomic Blonde, de trucs faits, probablement tout chez Universal. Là. Il y a des rapides et dangereux. Des choses comme ça, des vraies cascades. On rend jamais hommage aux cascadeurs, on s'en fout d'eux autres. Ça me faisait penser, pas dans la manière que justement Shane Wright a écrit, mais Gosling, quand il a joué avec Russell Crowe, là, qui était des policiers un peu bourrus qui enquêtaient de soir et tout, il y a un peu ce côté-là, mais là, il est en solo et non pas un sympathique duo. Là. The Good Guys,
je pense. The Good Guys, oui, je pense que c'est ça, fait que non, écoute, moi aussi, je rejoins tes commentaires. C'est un film hyper divertissant, avec des personnages hyper attachants. Puis on se plaint, ou en tout cas, il y en a qui se plaignent souvent que Hollywood font toujours les mêmes choses, puis des suites interminables. Ben, pour une fois qu'on a un film avec un concept, une idée, un univers original qui est le fun, qu'on n'a pas vu
puis qu'il y a le moins au cinéma.
Ouais, c'est ça. Vraiment, allez voir ça. Vous allez vraiment passer un bon moment. Puis, comme tu l'as dit, c'est une comédie d'action, un film de gros studio américain, mais bien fait, intelligemment, qui s'assume pour ce que c'est. Je veux dire, ça veut divertir, puis ça le fait pleinement. Là,
c'est ça, ça divertit. Je pense pas qu'il y a des blagues à s'en taper ses cuisses, mais il y a des clins d'œil à à la réalité, au cinéma. Il y a lui puis le stunt coordinator dans le film. C'est Wilson Duke qui le joue, puis tu vois qu'ils ont une bonne chimie, puis ils se disent des répliques, puis l'autre, il faut qu'il devine c'est dans quel grand film qu'il y a ça, là, du Rocky ou des Terminator, des affaires de même, genre. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment un film qui aime le cinéma, mais qui a aussi, tu sais, sa propre vie, puis il raconte quelque chose. Puis c'est vraiment facile d'embarquer dans ce film-là. 2h05, c'est bien correct.
C'est, c'est pas de longueur, c'est parfait. Ouais. Puis, moi, je veux dire, étant un amoureux du cinéma, mais aussi de la façon de faire des films, fait que c'est toujours intéressant de voir les coulisses de tournage, puis de voir là, un peu tout ça, là, la bébite du plateau. Hein, puis, fait que je trouve que ça nous présente bien la chose. Là,
Ceux qui me suivent sur Letterboxd, je sais qu'il y en a certains qui écoutent, puis qu'on interagit par après. Puis, tu sais, j'ai pas fait ma critique encore là, au moment d'enregistrer. Probablement au moment où ça va être diffusé, elle sera là. Puis, tu sais, j'hésite, mais vraiment, on donne pas de note d'habitude, mais je pense que je vais mettre 5 étoiles parce que, tu sais, dans le grand
schème.
Ouais, c'est ça, exact. Mais dans le grand schème du cinéma, tu sais, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'aime pas ça tout comparer là-dessus parce que sinon, ça fait. Toutes les notes sont drabes, puis t'es tout le temps dans. Ben, je sais que j'en mets beaucoup du 3 étoiles parce qu'on voit tellement de films qu'il y en a beaucoup qui. Il y a du bien, mais ça se démarque pas nécessairement, là. Mais c'est ça. Je pense que je l'avais fait pour Top Gun Maverick aussi, puis je le sais que c'est pas un film parfait, mais pour ce que le.
Pour ce que c'est,
ouais,
ça le fait.
Pour ce qu'il vise, je trouve qu'il a mis dans le mille. Mais ce qu'il vise, c'est pas d'être la liste de Schindler. Là, c'est ça. Fait que c'est. J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que je vais essayer de revenir le voir. J'avais dit ça pour Dune, puis j'ai pas réussi à revenir, faute de temps. T'as encore l'affiche un peu. Mais bref, celle-là, j'aimerais bien ça.
Sinon, ben, petit fun fact, Emily Blunt. C'est basé sur une réalisatrice quand même un peu connue pour faire son rôle.
Okay.
C'est inspiré de Greta Gerwig.
Ah ouais, derrière
Barbie. Ouais, fait que ça a l'air que c'est quelqu'un qui est très affable, très empathique.
Ils n'ont jamais joué ensemble, jamais tourné l'une pour l'autre.
Je ne crois pas, non. Fait que...
Même des deux comédiennes, je pense.
Ouais. Mais ils ont dû se croiser ça dans des soirées mondaines. Alors, je trouve ça drôle.
Ouais, puis ce truc qui est cool, on a remarqué à la fin, c'est que tous les personnages, même Blonde à un certain moment, ils ont le droit à leur scène d'action. Il y a Stéphanie Issou aussi, elle a amené aussi, elle va avoir, elle donne 2-3 coups de poing puis des affaires comme ça. Fait que c'est vraiment un film de cascade. Mm. Et, tu sais, Gosling, c'est pas son premier film d'action, là, quand même. Là.
Mm-hmm.
Puis, il a l'air à faire une... Tu sais, il se moque un peu du personnage de Tomb Raider qui fait zéro de ses cascades, justement. Mais lui, Gosling, je pense que dans la vraie vie, il en fait une bonne partie. C'est sûr que quand on le voit, là, dans le footage à la fin, tu sais, c'est quand il faut que tu jumps d'un truc en feu ou qu'ils se mettent en feu, ben c'est pas lui qui le fait pour vrai, là. Question d'assurance puis de technique puis tout. Mais quand il faut que tu sautes dans... que tu tombes dans le vide avec des harnais, ben c'est comme il l'a fait pour vrai parce que ça, il faut juste que tu ailles le guts de le faire puis on te dit non, tu t'es rigué, tu mets le câble là puis tu le fais puis ça va. Là,
il y a aussi le physique de l'emploi, je pense que ça aide aussi.
Hey, il grossit de film en film, il va finir costaud comme Kevin Durant, là, je sais pas trop. Là, mais
il est assez buff quand même.
Ouais. Il va finir comme Hemsworth.
Alors pour ceux qui aiment bien voir...
Ben lui puis Taylor Johnson, là, est quand même un petit party d'abdominaux dans ce film-là.
Oui, c'est ça, on voit des abs en masse.
Ouais, mais c'est aussi un hommage à tous ces films de gars-là, alors que quand on était jeune puis qu'on écoutait ces films d'action avec Stallone et les autres, on voyait les muscles des gars, mais on voyait souvent des filles en bikini et des affaires. Puis là-dedans, elle n'a pas, là, Emily Blunt. Elle va pas tout nu, là. C'est la réelle, là. Ça a du sens comment être habillé et tout, mais c'est plus les gars que... Ils flexent pas, là, mais il y a des moments que...
On peut compter leur spec.
Ouais, c'est
ça. Et
8
packs, même.
On peut ramper du fromage là-dessus. Nous, dans la salle, avec notre coke puis notre popcorn. Yes.
Merci de nous complexer.
Ben, Hollywood est là pour ça.
Oui. Allons complètement ailleurs avec le film d'horreur de la semaine, parce que quand même déferlant depuis quelques temps.
Ça va être aux deux semaines, ouais, je pense, c'est ça. Un film d'horreur.
Alors, Tarot de Spencer Cohen et Anna Hellberg.
Ouais, écoute, c'est un horror flick qu'on appelle, donc le genre de... l'équivalent du blockbuster, mais pour les films d'horreur, là, le fast-food d'horreur de la semaine, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, je ne dis pas ça négativement.
C'est pas un film d'horreur niché.
Non, c'est ça, c'est pas du elevated horror, c'est pas un film d'auteur. Là, exact. Après avoir joué avec un paquet de cartes de tarot trouvées dans le sous-sol d'une maison louée, une gang d'amis d'université vont commencer à disparaître mystérieusement tour à tour et peut-être penser que ce jeu de tarot se voulait une prédiction. Regarde, c'est ça qui arrive. Une gang d'amis qui vont mourir tour à tour avec des créatures bizarres de cartes de tarot qui vont apparaître devant eux. Écoute, je sais pas si c'est des... Moi, j'ai regardé un peu. Il y a Jacob Batalon qui est connu pour jouer Ned dans Spider-Man, justement, ouais, dans la dernière version. Avantika, qui était dans le dernier Mean Girls, dans le remake, elle chantait, elle était un des personnages là-dedans. Les autres, je les connais ni d'Eve ni d'Adam. Ça doit être des jeunes de...
qui montent un peu.
Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas la gang Euphoria. Je sais pas s'ils sont dans... c'est quoi l'autre affaire là, de Archie là, qui ont fait sur Netflix?
Riverdale. Non, je suis allé voir. Non, je pense vraiment... ils ont eu un petit buzz dans deux, trois petits projets plus indépendants. Okay.
Écoute, c'est ça. Je pense que c'est vraiment... c'est un film pour plus mon premier film d'horreur, ouais, des ados. T'sais, je le sais que c'est de 13 ans et plus, mais c'est quand même une espèce de 11 à 14. Là, que
c'est assez soft, là.
Oui, parce qu'on crée beaucoup de tension, beaucoup de jumpscares avec la musique, avec quelque chose qui pop d'en face, mais c'est zéro gore. Là. Si, je comparais il y a un an à peu près, là, quand il y a eu Smile, par exemple. Smile réunissait bien ces deux univers-là. Mm-hmm. On fait des sauts, mais c'est comme... c'est anxiogène, puis c'est un peu plus épeurant. Ça, c'est mon premier film d'horreur au cinéma.
Ouais, puis comme je te parlais, je pense, à prévisionnement, ça avait des échos pas mal de Scary Stories.
To Tell in the Dark.
Là, qui était sorti il y a quelques années, qui était produit par Guillermo del Toro.
Ouais, c'est ça.
Justement, c'est dans cette mouvance-là. Puis en fait, c'est pas surprenant, parce qu'en faisant quelques recherches, je te l'avais évoqué aussi. Ben, on l'a vu au générique, finalement, c'est inspiré d'un roman.
Ouais, fait que là, tu cherchais, toi, le libraire.
Je connaissais pas ça. Horoscope, donc de Nicholas Adams, qui est un roman style passe-peur des années 90. Là, fait que,
style quoi,
passe-peur, tu sais, la collection passe-peur.
Ah, non, je connais pas. Mais genre chair de poule.
Ouais, chair de poule. Oui, c'est la même. Je pense que passe-peur, c'était traduction américaine, mais chair de poule, c'est américain aussi.
Non, c'est Goosebumps en anglais, chair de poule en français.
Passe-peur, c'est peut-être québécois. C'est
mais pour ça, ça se peut.
Parce
mais
qu'il y avait comme un pendant québécois aussi.
Ouais, c'est ça. Il y en avait d'autres, effectivement. Ouais.
Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, moi aussi, je suis d'accord. Là, c'est vraiment un film pour pré-ados, pour qu'ils voient un peu des créatures un peu terrifiantes, mais tu sais... vous ne ferez pas grand saut. Là, puis,
Peut-être des sauts, mais il n'y a rien de dégueu. Ouais, je repensais à... moi,
mais
quand j'étais jeune...
télégraphier les sauts.
Oui, c'est ça. Quand j'étais jeune, c'était... c'était les années 90, hein, on le dit souvent. Fait que les Scream, puis I Know What You Did Last Summer, mais il y avait un petit peu plus de... c'est dégueu à dire, mais des couteaux qui rentrent dans des affaires, puis du monde qui se font couper la tête, puis des
trucs comme graphique,
ça. Plus graphique, voilà, ici, il n'y a pas ça. Mais je souligne, j'ai vraiment aimé la direction photo, parce que c'est un film qui est beaucoup, beaucoup dans l'obscurité. Puis je trouvais que c'était comme bien éclairé, c'était le fun, la colo, comment elle était faite, c'était pas trop surexposé d'une espèce de lumière impossible qui sort de nulle part. Mm-hmm. Fait que ça, je trouvais ça cool pour ça. Le film dure 1h30, là. C'est malade, parce que si tu commences, ils sont comme, autour du feu, puis ils parlent entre amis, puis ils sont déjà dans le chalet, qui est blablabla, puis il arrive une couple d'événements, puis plus tard, tu vois le titre et tout, puis je suis comme, OK, le film assume que vous allez les connaître suffisamment, eux, ils sont en amour, eux, ils viennent de rompre, lui, c'est le funny guy, ça va aller. J'ai pas besoin de vous faire le classique 15 minutes avant de genre, sont à l'école, hein, c'est en fait le dernier jour d'école, hey, ça va être ta fête en fin de semaine. Non, on est déjà à sa fête entre amis, c'est cool. Mais ça me faisait rire parce qu'un des films qui a bien fonctionné, que les gens ont apprécié, c'était Cabin in the Woods, il y a quelques années, de Joss Whedon, qui finalement n'est putain une bonne personne. Mais bon, le film avait beaucoup marqué en se moquant de ces codes-là de films d'horreur. Il y a certains clichés qui sont dans ce film-là puis qui n'ont pas échappé. Là. Quand ils trouvent un jeu de tarot, puis tu sais, tu arrives dans une pièce avec plein d'éléments inusités. Fait que, tu sais, le film me fait rire pour ça, mais il est au premier degré dans ce sens-là. Mais tu sais, ça va être le premier film d'horreur de quelqu'un, puis il va avoir du fun là-dedans. Là. C'est ça, exactement. Mon seul avis, c'est ça. Si vous êtes un gros fan hardcore de films d'horreur, ben allez pas voir celui-là. Je pense qu'il va en avoir des meilleures offrandes plus tard cet été. La dame Olwen Fuere, qui joue l'espèce de spécialiste du tarot qu'ils vont rencontrer plus âgé, va être aussi dans The Watchers dans genre 3 semaines. Okay. Fait que voilà, fan.
C'est le nouveau visage du.
Ben, c'est le nouveau vieux visage, parce qu'il y a une dame d'une 40-50aine d'années. Je sais pas. Avais-tu autre chose sur
Non, moi ça me va.
Spencer Cohen, je sais pas. C'est un couple, Spencer Cohen puis Anna Ahlberg?
Je sais pas. Mais... Je sais que c'est leur premier long métrage, mais.
Ben lui, il a. Ouais, c'est ça. Il a writé. Moonfall, puis le. Pas le scénario, mais le story du dernier Expendables. Fait que ça donne. Écoute, il fait plus de films que moi, mais je sais pas si je suis jaloux. Là.
allons complètement ailleurs avec film belge. Ouais, même c'est des acteurs français, mais je pense une production belge. Un silence de Joachim Lafosse.
Ouais, je pense que c'est une coprode. Ouais, France, Belgique, Luxembourg, là, la classique des francophilies européennes. C'est le 10e film de Joachim Lafosse. Les plus récents ont joué ici, mais ont un certain succès. Les Intranquilles en 2021, qui parlait de la bipolarité, puis je pense que ça a beaucoup affecté. Je me souviens plus si c'est lui-même ou son père, mais c'est, il y avait un point de vue personnel là-dedans. Puis il avait fait aussi L'économie du couple en 2016, qui était sur la séparation d'un couple, puis comment on gère les biens à travers ça. Genre, elle qui. En tout cas, je reviendrai rapidement au film. Elle qui a payé la maison, mais lui qui a fait toutes les rénos dedans. Comment on divise ça. Mm-hmm. Fait qu'il est souvent dans, justement, les cellules familiales en crise, je pourrais dire. Ici, on est avec, principalement, Daniel Auteuil et Emmanuel DeVos, alors deux comédiens et comédiennes de talent. C'est un film à punch. Je ne vais pas révéler le punch ou quoi que ce soit. Fait que la prémisse, c'est que cette dame de... La femme, la mère de famille, Emmanuel DeVos, qui est silencieuse depuis une vingtaine d'années, c'est la femme d'un célèbre avocat qui va voir son équilibre familial s'effondrer alors que ses enfants vont chercher justice. Mm-hmm. On est dans je l'ai souligné pour Tarot, mais il y a ça ici aussi, dans un grain différent, mais une direction photo très sombre. Mm. C'est très poussiéreux, le film, souvent. Il y a beaucoup de scènes de nuit aussi.
Que j'ai trouvé moi, vraiment magnifique.
Oui, c'est très beau
images,
comme film. Ouais.
Les cadrages aussi.
Quelques plans séquences à m'amener dans la révélation. C'est un long plan séquence qui demande à tout le monde de jouer la bonne émotion avec intensité au bon moment.
Moi, je trouve que
c'est pas ça paraît que c'est un 10e film.
Oui, c'est très, très maîtrisé dans sa réalisation. Esthétiquement, c'est très beau. La musique aussi, je trouve que vraiment de très, très bonne qualité. Je pense que c'est un cas de film où je pense que j'ai peut-être plus préféré que toi. Ça arrive des fois.
Oui, parce que... on va rien spoiler, vous en faites pas, mais une fois qu'on connaît le punch, j'aurais voulu en apprendre plus. Mm-hmm. J'aurais voulu que ça continue ou que le punch se soit révélé plus tôt et que, tu sais, ça finit pas avec le punch, quand même une vingtaine de minutes après, mettons, mais... c'est ça. On dirait que je trouvais qu'on se retrouvait avec encore plus de questions, finalement. Puis c'est le fameux célèbre interprétation ou... pas célèbre interprétation, mais qu'est-ce qui va advenir des protagonistes et tout, tu sais. Fait que...
Tout ça demeure un peu en suspens, quelque part.
Ouais, c'est ça, exact. Puis j'aurais aimé ça que le film prenne le temps de approfondir ça un peu plus, si on veut. Mais au point de vue de la mise en scène et tout... j'ai rien à redire, là, c'est ça. Puis c'est des bons comédiens bien mis en valeur. Beaucoup de scènes, par contre, dans des chars, quelqu'un qui...
On roule beaucoup.
Ouais, c'est ça, là, qui pleure ou qui... moins type cascade que Fall Guy, ça, faut le donner. Aucun capotage.
Personne qui passe au travers d'un...
Non, c'est ça. Mais beaucoup de conversations dans des voitures, puis des déplacements, puis c'est ça.
Moi, j'ai vraiment apprécié, honnêtement. J'avais aucune idée... Qu'est-ce que j'allais voir? Puis je me suis surpris à embarquer dans cette histoire-là. Puis justement, moi, j'ai bien aimé que c'est... On reste un peu en surface. On est un peu observateur de tout ça. Mais vraiment, tour de force pour les deux comédiens. Surtout Daniel Auteuil, qui est un peu en contre-casting. Généralement, il joue quand même des personnages très sympathiques. Mm-hmm. Là,
il est froid.
Très froid. Évidemment, il garde...
Mais il travaille sur une grosse enquête. Ouais. Il y a des journalistes chez eux tout le temps. Puis il est comme, non, on respecte
notre vie
privée. Puis il est comme... il est médiatisé malgré lui à cause des affaires qu'il fait. Tu sais, comme un avocat qui défend des pas fins, ben, amener c'est ton travail puis tu le fais, mais c'est ça. Bref.
Puis, non, très belle complicité avec Emmanuel Davos, qui est toujours très bonne, comme d'habitude. Fait que, non, un drame judiciaire, moi, je trouvais qui est lent, qui est fait en subtil.
Qui est lent, mais
subtil.
Qui dure comme une heure et demie, là, oui, c'est ça, il n'est pas pénible.
Mais je trouve que tout est en subtilité, en finesse. Fait que moi, j'ai vraiment très, très bien aimé. Un silence, puis petit fun fact, c'est inspiré d'une vraie affaire du milieu des années 2000. Moi, je me rappelle un petit peu, en Belgique, c'était Marc Dutroux qui, j'ai bien dit, hein, Dutroux, oui, qui avait tué quand même quelques enfants, là, puis avec un prédateur sexuel et tout ça. Là, puis, donc, c'est son avocat, Victor Hissel, qui défendait les victimes. Finalement, ben, cachait quelque chose lui aussi.
C'est ça.
Ouais, disons ça comme ça.
Exact. Vous irez lire sur la vraie affaire.
Ouais, après avoir vu le film.
Ou il doit y avoir 17 podcasts de True Crime qui couvrent ça. Mais...
J'imagine, ouais.
C'est sûr.
Pas de documentaire?
Ben oui, mais avant, j'aimerais te parler du drame Carnaval de Henri Pardeau.
Oui.
Qui est une coproduction, je pense que c'est même un film 100% québécois, qui se passe en 1975, oui, une mère et son fils vont fuir Haïti, qui est sous la dictature de Duvalier fils, Baby Doc, là, qui, en tout cas, père et fils ont été longtemps régnés sur Haïti.
Mm-hmm.
Fait qu'ils vont, dans leur transit vers... une nouvelle place en quête de paix, parce qu'elle, en fait, est institutrice. Puis on l'accuse d'avoir des idées de communisme et des idées nouvelles et blablabla. Fait que craignant pour son intégrité et celle de son fils, vont quitter, vont se retrouver un peu à Chicago, puis éventuellement dans un petit village au Québec, qui peut rappeler rue un peu d'une certaine manière, mais encore plus petit bled que ça. Sauf qu'ils arrivent là, évidemment, en plein hiver. Fait qu'ils sont accueillis par Albert et Cécile. Albert qui est joué par Martin Dubreuil. Mm-hmm. On voit énormément au cinéma, ouais. Mais souvent dans des comme troisième rôle, là, c'est quand même un rôle assez présent parce que tout le long du film, pas mal sont dans cette famille-là.
Ouais.
Qui sont un couple sans enfants puis qui vont être super bienveillants puis qui vont se prendre d'affection pour le gamin. Sauf que le garçon va quand même avoir de la misère à s'adapter à sa nouvelle vie. Et surtout qu'on va voir, c'est que des adultes comme des enfants dans le coin, en région, des années 75, ben, voir des petits Haïtiens noirs. Okay.
C'est comme Hérouville un peu, on est dans ce coin-là.
Écoute, je connais pas assez la saga, là. Je me souviens du maire, des affaires de même, mais je suis pas assez...
J'étais un peu xénophobe.
Ouais, c'est ça. Fait que on est beaucoup dans le point de vue du garçon.
Mm-hmm.
Qui va amener tomber aussi un peu dans l'imaginaire avec se voir son lui-même un peu dans son, pas son subconscient, mais le côté enfant haïtien qui va l'accompagner dans certaines affaires. Fait que c'est un film très touchant. On a eu beaucoup quand même récemment, ben justement, on parlait de Rue. Mm-hmm. Il y a eu Moi, Capitaine, qui était vraiment sur le voyage. Ici, on est dans l'arrivée. Rue était le côté très bienveillant de tout ça. Ici aussi, on voit qu'il y a des bonnes personnes, mais il y a des moments plus tough pour la mère et le fils. C'est pas parce que tu es arrivé là que tu as complètement oublié qu'est-ce qui s'est passé, puis tu es déchiré, puis tu as encore de la famille outre-mer et tout. T'sais. Fait que je sais que Henri Pardeau s'est inspiré de comme la vie de sa famille, mais je sais pas où il passe là-dedans. Je sais pas si lui-même était comme un peu le garçon là-dedans ou s'il y a une génération en dessous, okay, ou quoi que ce soit. Là. Mais il y a quelque chose là-dedans. On utilise aussi beaucoup les flashbacks pour comprendre de plus en plus qu'est-ce qu'ils ont forcé à quitter puis les violences qu'ils ont subies. Fait que voilà, c'est un très bon film. C'est juste que... Ben, il n'y a pas de « c'est jusque-là ». Il joue beaucoup déjà à Montréal. Il y a eu la première. Le film fait beaucoup jaser positivement pour Carnaval avec un K. Dans les autres sorties, écoute, il y a un documentaire sur les expos. Nos amours, la saga des expos de Montréal de Robbie Hart, lui qui a fait il n'y a pas si longtemps, Franqueur, on achève bien les rockeurs sur Lucien.
Je pensais que c'était juste de plateforme, mais finalement, il
est disponible dans quelques salles. Non, il y a quelques salles de cinéma qui diffusent notamment des Goudzo, je pense. Okay. Fait que, écoute, checkez ça si ça vous intéresse. C'est qu'il y avait eu le film, je pense, en 2002, Nos amours, alors que les expos étaient en pleine débâcle juste avant qu'ils déménagent. Puis là, ben, on revient, ça fait déjà 10 ans, là, depuis 2012, en fait, que Robbie Hart travaille sur le projet.
Quand même.
Fait que c'est un documentaire sauce classique. Là. On prend les gens dans leur milieu de travail, on les cadre, ils parlent de ben, d'un peu du départ, mais de combien ils ont travaillé pour essayer de ravoir les expos. Il y a du monde qui ont travaillé dans des filières administratives de tout ça, des anciens, quelques anciens joueurs. Là, j'ai pas noté tout le monde. J'avais écouté la bande-annonce. J'ai pas vu le film. Mais
moi, j'ai entendu que ça, c'est comme un peu en deux temps où, d'une part, on retrace l'histoire des expos, mais en même temps, on mêle ça avec le souhait des ramener.
Oui,
tout
c'est
ça. Fait que, je pense que ça peut être assez intéressant.
Ouais, il y a de quoi de bien là-dedans, mais ouais. Moi, c'est un peu comme nous, on est ici à Québec avec les Nordiques, puis c'est pareil. C'est comme, ben, s'ils reviennent, tant mieux, puis je vais être au rendez-vous, mais je trouve ça quasiment...
Tu parles pas du sommeil là-dessus.
Ben non, puis je trouve ça quasiment dommage que certaines personnes soient comme, mettent tous leurs efforts pour vous ramener. Tu sais, c'est bien plus grand que vous autres, là, parce qu'ultimement, c'est pas comme si ces ligues-là, bon, on dit que les expos seraient plus proches d'un retour que les Nordiques, mais tu sais, amener son parti parce que ça marchait pas financièrement, puis la situation n'a pas 100% changé, là. Mm-hmm. La démographie n'a pas tant que ça augmenté, puis tout coûte plus cher. Fait que si ça marchait pas dans le temps, ça marchera pas vraiment plus maintenant. Là, fait que...
Mais tout dépend du propriétaire, je pense qu'il est là, faire un gros discours sur l'économie du sport, mais c'était un peu ça aussi, les expos, comme les Nordiques, c'était plein de propriétaires minoritaires qui ne voulaient pas injecter de l'argent dans l'équipe. Okay. On bâtissait des grosses équipes. Les joueurs arrivaient à terme pour les signer des gros contrats, puis on les laissait aller. Fait que les gens se sont juste tannés à la fin. Puis je pense qu'ils ont fait trois fois le coup. Puis là, la dernière fois, les gens ont juste débarqué puis ont dit, ben là, nous, on n'embarque plus. Là.
Mais c'est que... ça. Fait que ça prendrait vraiment un riche, pas aristocrate, mais comment on peut dire, non, celui
qui... Mécène, en quelque part, ça, là, qui lui est prêt à perdre un peu d'argent.
Philanthrope, là, qui vient. C'est ça, moi, c'est juste pour le plaisir des avoirs.
Ou là, tu parles deux, trois... grands actionnaires, mais qui ont les poches profondes. Puis, fait que, mais non, tout ça va être une saga à suivre. Mais
ils n'ont pas annoncé justement que finalement, c'est les Athletics allaient quitter Oakland, ou je mélange les choses?
Il me semble que...
Ou c'est par rapport à leur stade? Oui,
c'est Las Vegas qui vont...
C'est le même principe. Eux aussi, c'est ce qu'on voit dans le film Moneyball, qu'ils n'ont pas l'argent, fait qu'ils sont juste un farm club. Dans le fond, ils servent à grandir des espoirs, puis après, ils vont signer ailleurs pour vraiment plus cher. Puis... Fait que, c'est triste, là, t'sais, faut que tu... Puis, en tout cas, au baseball, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas de plancher salarial, là. Il y a un genre de plafond, mais tu as juste des pénalités. Tu peux te dépasser, si tu veux, là.
Ouais.
Fait que les Dodgers, les Yankees, les Red Sox sont souvent dépassés.
Total, là, t'sais, des masses salariales de 200 millions contre 50 millions pour
l'équipe. Ouais, c'est ça, tu sais.
Ça n'a aucun sens.
Au hockey, il y a un plancher puis un plafond, mais faut que tu sois capable. C'est pour ça que, en tout cas, petite histoire d'hockey, là, vous savez le savoir, là, t'sais, des équipes comme le... En Arizona, pendant longtemps, qui d'ailleurs déménage aussi, mais tu sais, ramassaient des contrats de joueurs surpayés qui étaient en déclin juste parce qu'ils avaient besoin
du
minimum.
Plus.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Des joueurs blessés. Juste
à long terme.
Ouais, regarde, on l'a, le minimum, mais le vrai roster qui joue, c'est 14 millions parce que c'est tous des recrues puis du monde signé pour 1 million. Puis ils sont des estrades blessés à jamais, tes gars payés 12 millions. Là, Brian Campbell, puis des affaires comme ça qui vont être Jovanovski, là, qui vont finir leur carrière là-bas. Pas Pronger aussi.
Ça se peut.
Chez Weber, qui est passé par là 15 minutes, je ne sais plus trop. Le joueur n'a jamais mis le pied là-bas pour vrai. Il n'y a pas Ossa. Son contrat est allé finir là-bas, je pense. Ou Avlat, là, tout ce monde-là. Mm. Bref. Et il y a la comédie Comme par magie de Christophe Baratier, qui nous a donné à l'époque Les choristes et plus récemment Le temps des secrets de Marcel Pagnol et sa jeunesse.
Ouais,
ici, avec Kev Adams et Gérard Jugnot, on va suivre un magicien qui est en pleine ascension, mais malheureusement, sa conjointe et assistante meurt pendant l'accouchement de leur enfant. Fait qu'il va se résoudre à confier le nourrisson à son beau-père puis recommencer à travailler avec une nouvelle assistante. Son beau-père qui est un ancien clown. Fait que dans le monde du cirque, ça va donner une comédie dramatique de bons sentiments.
Je sais pas si c'est encore
assez légère.
Toujours aussi populaire qu'Eva Adams, mais comme une dizaine
d'années. Il tourne en tabarouette dans des films. Puis, mais tu sais, on le dit souvent, là, les Français produisent vraiment plus de films.
Ben oui, puis pas tout traverse non plus ici. Là, fait que...
Il y a ça, mais je veux dire, c'est pour ça qu'ils sont capables d'être dans trois films par année. Là, nous autres, si t'as même les faces qui reviennent souvent, là, si tu vois Guillaume Cyr dans trois films dans la même année, on a un petit problème de casting parce qu'il aurait pu varier un peu, mais si tu arrives à faire un film par année, c'est très bon. Là, ou tu vas avoir une espèce de timing qui fait que tu as deux films, trois films la même année, rôle principal, rôle secondaire, puis là, on ne te voit plus pendant quatre ans. Là. Là-bas, c'est ça, là, des Frank Dubos, des Kev Adams et Thierry Lhermitte, ils jouent constamment là, dans des films, là, dans des comédies. Là. Fait que voilà, pour Comme par magie. Mais c'est tout pour cette semaine. C'est tout ce que j'ai noté, c'est assez. La semaine prochaine, le 10 mai, Kingdom of the Planet of the Apes, le royaume de la planète des singes de Westball, qui va se situer donc après la plus récente trilogie qui avait été complétée par Matt Reeves.
Plusieurs années après aussi.
C'est
ça. Un gros saut de temps.
Qu'on va découvrir, est-ce qu'on va aller directement sur le fameux premier film ou est-ce qu'on va laisser la place à d'autres films pour une autre... Ils n'ont pas annoncé comme telle une trilogie.
Je pense que oui, il me semble. Ouais.
Fait que Westball est un gars de trilogie, lui, qui a fait les Maze Runner avant. Il y en a eu 3 ou 4 de ces affaires-là, je ne sais plus.
J'ai perdu le compte.
Ouais. Bref, on en reparle ça et bien plus. La semaine prochaine, d'ici là, comme d'hab, écrivez-nous au balado au singulier. À commercialmonciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, puis si jamais vous avez l'envie de jouer au tarot, prenez garde où provient le jeu.